Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. J'espère que vous ne prendrez pas le bâton pour me battre. Alors,
vous m'avez dit que j'étais un misogyne. Vous vous rendez compte? Cumulard, misogyne.
Ah non, j'ai posé la question. Non, je n'ai pas dit que vous l'étiez, je vous ai posé la question.
Vous êtes assez subtil, mais c'est pas très cool quand même, parce que vous savez, moi, je suis un fan, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes dans ma carrière. J'ai été directeur de campagne pour des députés femmes. J'ai beaucoup d'admiration pour la pugnacité, ça je peux l'accorder. Cette pugnacité, cette volonté que vous avez, vous êtes accroché beaucoup plus que beaucoup d'hommes. Ça, je vous le reconnais. Mais ne me dites pas à moi que je suis misogyne, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, d'ailleurs, je vous adore, toutes les trois. Franchement, heureusement que vous êtes là, vous animez. C'est vrai, vous avez ce espèce de punch là. Et je pense qu'on peut aller boire une bière ensemble après, sans problème.
Ah, finalement, je suis au niveau, du coup.
Dans la mesure où la situation de Lourdes est préoccupante, et même s'il fallait alléger un petit peu la tension de ce soir, j'aimerais poser des questions. Hein, c'est vraiment des questions ouvertes pour essayer de comprendre quelles sont les perspectives pour Lourdes et comment on va fonctionner également à l'avenir. D'abord, j'aurais aimé savoir pourquoi cette année n'a pas été organisé le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget primitif avant le début d'année, comme vous l'aviez annoncé.
Le budget a été fin juillet. On ne perd pas l'idée de faire du 1er janvier au 31 décembre. Seulement, vous avez vu que le budget était préparé en juillet, c'était un peu court. Et puis, franchement, on attendait un peu de meilleures nouvelles aussi au niveau des dotations de compensation de l'État pour pouvoir s'appuyer dessus et construire un budget différemment, ce qui n'est pas le cas.
Je peux comprendre, effectivement.
On va essayer quand même de travailler dessus, mais ce n'est pas gagné. Regardez, cette année, l'année 2021, ça va être un peu similaire, donc ça va être compliqué.
Mais je vous remercie de votre réponse, parce qu'en fait, ce que je voulais savoir, c'est si cette annonce qui avait été faite était reportée sine die, ou si c'était juste compte tenu de la situation. Et c'est vrai que cette année, la situation en termes de ressources et de dépenses est très compliquée. Donc là, je peux le comprendre et je suis contente donc de cette réponse. Ensuite, des questions plus précises concernant notamment le plan d'action Lourdes Horizon 2030. Concernant en premier lieu l'action 20, qui est relative à la maison du travail saisonnier dont vous avez parlé. Oui. Et donc c'est un beau projet, elle sera adossée donc à la maison France Service, c'est une bonne nouvelle. Et nous aimerions savoir en tant que copilote avec l'État s'il y aura des créations d'emplois pour informer, accueillir, faire la gestion administrative. Si oui, combien? Est-ce que nos saisonniers qui sont privés d'emploi pourraient éventuellement prétendre à postuler? Et est-ce que ce local sera mis à disposition gracieusement à l'association des saisonniers?
Ce projet est porté par l'UDAF déjà, donc nous ne sommes pas maîtres d'œuvre sur ce projet-là. Il est évident que, croyez-moi, vous voyez, les saisonniers sur le chantier d'insertion de l'OFIT, je crois qu'il y en a 4, Madame Cabanet, il me semble, 4 saisonniers qui ont été fléchés. Si on peut en flécher sur ces postes-là, mais je répète encore une fois, c'est l'UDAP, on le fera. On a vraiment le souci, moi je rencontre beaucoup de gens qui viennent me voir. J'ai 227 demandes d'emploi sur mon bureau. Je ne suis pas pour l'emploi. Il y a un appel à projet en cours, donc on est en attente de la faisabilité. Mais effectivement, je suis absolument d'accord avec vous. Et puis, c'est une de nos priorités, c'est de trouver du travail. Ne serait-ce que le projet Tidos, qui, s'il voit le jour, apportera, je crois, une douzaine d'emplois supplémentaires. Donc, comme c'est de l'agroalimentaire, on pourrait flécher, par exemple, les salariés de Toupneau qui ont perdu leur travail. Pour certains l'ont retrouvé, jusqu'à présent, un peu. Mais d'autres encore, voilà. Donc il y a quand même une réflexion sur les chantiers d'insertion. Enfin, et puis bon, aller voir certaines entreprises mais on a deux ou trois projets qui sont en cours d'élaboration, là, dont un assez pressant qui pourrait aussi faire valoir quelques. Mais c'est toujours pareil. On ne va pas créer 50 emplois d'un coup. Hein.
Bien sûr, mais c'est déjà des perspectives qui peuvent être encouragées.
Oui, d'un côté, deux de l'autre. Et puis voilà, ça paraît faible au regard des centaines de chômeurs qui sont tombés sur le champ d'honneur. au mois d'octobre, ça paraît faible, mais il ne faisait pas force des... Peut-être que le rebond... Moi, je crois quand même un vrai rebond de cette ville, parce que quand je vois tous les contributeurs qui sont prêts, ne serait-ce que l'inscription de Lourdes dans le cadre de la mesure, enfin, du plan interministériel du tourisme, à mesure 21, c'est parce que Lourdes, hein, c'est la seule ville de métropole à être intégrée, c'est la Corse et les Dom-Tom. Donc on peut se dire qu'à un moment donné, il y aura un effet d'entraînement, et que tout va se remettre en route, mais ce qui est très difficile à vivre, enfin, moi je vous le dis en tant que citoyen lourdais, hein, ce qui est très difficile à vivre pour toute la ville, c'est ce creux, cette situation de creux où c'est difficile quand on est devant des choses dramatiques comme un crash, comme ça, du jour au lendemain, de se dire, bien, ça va repartir, et il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait des résultats immédiats. Alors, il y a de l'humain au milieu de tout ça, il y a des choses qui... Il faut s'occuper des assos, par exemple. Les assos, c'est vachement important, puisque les écoles, les assos, les enfants qui sont privés le soir à 18h, couvre-feu, tout le monde rentre à la maison, vous avez vu le nombre de suicides sur les 15 ans, enfin, il y a quand même des problèmes psychosociaux qui sont inhérents à la situation. Donc, il y a ça aussi, ça fait partie aussi du job d'être en gestion, enfin, d'être dans une équipe municipale et puis de se projeter un peu partout. Alors oui, il y a la relance économique, forcément, elle est la base, la pierre angulaire du système. Mais il y a tout, en fait, à faire avancer et ça va repartir doucement, mais faut être patient, mais y croire, il faut y croire, il faut croire à les humains, on le voit, je crois que ça a évolué quand même en un an, là, les gens commencent à avancer, il y a l'histoire des vaccins aussi. Même si les vaccins restent pour moi une sécurité psychologique pour l'instant, pour faire reprendre la société, parce qu'on ne sait pas encore s'ils sont hyper efficaces tous, il y a des variants, mais quand même ça contribue, mais les gens seront vaccinés en quantité suffisante, en combien, 2 ans peut-être, pour avoir un vrai élan de reprise en sécurité. Ne serait-ce que le travail qui est fait par les socioprofessionnels aujourd'hui, ça aussi c'est très important à intégrer. La ville de Lourdes, quand elle va revoir des pèlerins, arriver proche du sanctuaire ou autre, les jauges ne seront pas des jauges, on ne va pas reprendre, il n'y aura pas 25 000 ou 30 000 pèlerins au sanctuaire. Il y aura des jauges, ça aussi, il faut s'habituer à reprendre doucement. Quand les hôtels se rempliront, peut-être qu'on doit travailler sur l'annualisation de la saison. On va y être contraint. C'est un projet qui date d'une quinzaine d'années, ça, l'annualisation. Mais peut-être que la situation Covid nous pousse aujourd'hui à y travailler vraiment pour pouvoir avoir le même flux de pèlerins, mais sur une année, avec une fragmentation de cette venue, et non pas concentrer sur peu de mois. Et ça, le recteur partage mon avis. Il me dit, oui, ça va être très compliqué. Regardez les jauges qu'on va organiser au sanctuaire en très sortie. Aujourd'hui, c'est 1000. Demain, peut-être en juin, ce sera 5000, peut-être. Mais on ne va pas retomber du jour au lendemain dans les stades de foot ou de rugby. On ne va pas remplir les stades de nouveau 100 000 personnes, 50 000 personnes. L'État a serré fort les taux. Il a été difficile de mettre le couvre-feu aussi bas à 18 heures. J'ai des doutes, moi, quant à sa volonté d'abord. Et puis, en termes de sécurité, les marges sécuritaires, elles sont à peu près inconnues aujourd'hui pour relâcher d'un coup. Donc ça aussi, ça a intégré. Lourdes, peut-être, va se refaire différemment. Le recteur le dit, hein. Il le dit aussi, il en est convaincu, que Lourdes la reprise sur Lourdes se fera d'une manière différente. Et c'est peut-être aussi une opportunité pour travailler vraiment dans ce que vous disiez tout à l'heure, sur la qualité, sur le tourisme nature, environnemental, pardon, et de profiter de l'aubaine, de cette situation compliquée, mais ça peut être de contrainte en opportunité, pour pouvoir travailler sur les flux individuels et des produits diversifiés. Puisque le but, c'est quand même d'emblée de passer de 2,8 de nuitée à 3,5 déjà. Si on arrivait à faire ça, ce serait bien. Mais bon, on n'en est pas là encore. Oui.
Par rapport à ce que vous disiez là sur l'annualisation de la saison,
oui.
Est-ce que il n'y a pas un risque pour nos socioprofessionnels dans la mesure où, s'il y a une annualisation, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait donc un lissage du nombre des pèlerins qui viendraient, des visiteurs? Et dans ces cas-là, combien d'hôtels, combien de commerces auront la capacité financière à c'est tenir ça. Le coup, compte tenu des coûts d'exploitation. On le voit, là, il y a beaucoup d'hôtels, par exemple, qui restent fermés parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir, ou même des commerces. Quand on sait que, justement, on est en train de vivre une crise sanitaire avec des répercussions économiques et sociales foudroyantes, il y a beaucoup d'entreprises, déjà, qui vont fermer parce qu'elles n'ont pas de trésorerie, malgré les aides importantes apportées par l'État. Donc, est-ce que ce n'est pas un risque aussi? Et donc, est-ce qu'il ne faut pas... bien sûr, l'annualisation, ça peut présenter des avantages, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir aussi à l'esprit que, voilà, il faut... Pour l'intérêt à la fois de notre économie, de notre population, il est important que de sauver le plus grand nombre de commerces, d'hôtels, etc. Et donc, je pense que même si c'est une perspective très intéressante, l'annualisation, je crois qu'il va falloir faire attention aussi aux risques que cela peut induire, ou en tout cas trouver des alternatives pour ne pas justement que ça soit un pari risqué.
Alors, ça a été évoqué dernièrement, il y a 3 jours. Certains hôteliers y sont favorables, déjà depuis longtemps. Il y a déjà des groupes qui travaillent dessus. D'autres moins, par rapport à ce que vous disiez, cette crainte d'entretenir des structures. Mais une autre piste, le fait est que si vous ne pouvez pas faire revenir des pèlerins en grand nombre comme sur une temporalité compactée, c'est une possibilité qui est avancée de travailler plus au large sur la saison et d'avoir le même flux de pèlerins mais distendu. Mmh. Ça peut être une solution. Il y a aussi, et ça c'est proposé c'est mis en avant par les études, le qualitatif. Le qualitatif, on a bien vu, il y a quelques hôtels à Lourdes qui s'y sont mis déjà, qui travaillent bien, qui ont réussi à faire des chiffres d'affaires. Et je pense à eux notamment, même s'il est un peu à part, mais il a fait un excellent chiffre d'affaires en 2020 malgré le Covid. Donc il y a cette possibilité-là aussi de travailler sur le qualitatif. Mais il faut que tous les hôteliers le décident. C'est à eux de décider, c'est pas à nous. Nous, nous sommes là pour impulser des idées, et puis tous les contributeurs que sont le CRTO, HPTE, le ministère du Tourisme et d'autres acteurs prennent des solutions nouvelles quand même pour le monde socio-professionnel. Eux, ils sont convaincus que s'il n'y a pas un vrai changement dans les pratiques, que ce soit la qualité, ce qui se fait, les prix, le dumping inférieur, et maintenant on est par terre, on est au plus bas là. S'il n'y a pas ces idées à mener et discuter sous la forme de cellules de réflexion et puis de décisions communes, ce sont les syndicats hôteliers qui décident. Ce sont eux qui sont à la manœuvre. Je pense qu'ils sont en train d'y penser sérieusement parce que, à défaut, je ne sais pas comment on peut imaginer que demain, il ne faut surtout pas être dans l'attitude attentiste de se dire que demain, on est reparti comme si rien ne s'était passé. Il y aurait une montée en charge progressive, c'est évident. Les ministres le disent, ils ne prendront pas de risques parce qu'on ne maîtrise pas la situation. Déjà. Mais alors, que faut-il faire? Vous voyez, par exemple, l'adoption de la charte Veritas, le travail sur le Covid safe, le Clean safe, c'est déjà une piste parce que ça demande du travail. Ça demande aussi, c'est des pertes aussi de bénéfices parce que vous allez travailler mais vous allez dégager moins de chiffres d'affaires. Alors est-ce qu'il ne faut pas imaginer ces plans? Enfin, c'est pas à moi de le dire, je lis les études, je pense que il va falloir s'engager sur quelque chose.
Il est vrai que Lourdes est actuellement la deuxième ville hôtelière de France.
En capacité.
Oui, en capacité. Et la difficulté, enfin, le véritable défi pour notre ville, c'est à la fois de maintenir cette capacité, parce que c'est grâce à cette capacité aussi que nous avons un surclassement démographique qui permet d'avoir plus de moyens aussi pour la ville de Lourdes, il ne faut pas l'oublier, pour la commune en tant que telle. Je crois en effet que dans une perspective très courte, un horizon 2021, 2022, 2023 peut-être, bien sûr que le tourisme, comme on l'a connu avec de des masse, grands pèlerinages, de voilà, oui, je trouve l'expression pas très heureuse, mais c'est pour ça que je l'emploie pas, mais c'est le terme effectivement.
Il l'emploie même.
Voilà, vous avez raison, c'est le terme qui convient d'utiliser. Bien sûr que dans les 3 années à venir, on ne peut pas se projeter sur ce type de tourisme et de visiteurs. Et donc, il faut privilégier aussi ce tourisme individuel. Et ça, c'est peut-être aussi, vous le disiez, je suis d'accord avec vous, il faut savoir tirer des difficultés, des forces. Et peut-être que cette pandémie, elle a au moins cet avantage de nous montrer les vraies valeurs, le retour au circuit court, la recherche d'une quête vers l'environnement. Et ça, nous, on peut effectivement avoir une vision complémentaire de ce tourisme que l'on connaissait, ou en tout cas de ces visiteurs qui venaient plutôt avec les pèlerins à Lourdes. Et donc, il faut effectivement diversifier. Je pense que c'est une logique, tout en confortant, bien entendu, cet aspect qui fait la signature d'exception dont vous parliez tout à l'heure pour Lourdes. Est-ce que je peux enchaîner
Juste, oui, je voulais vous dire une chose. L'effet aussi négatif de ce type de situation qui verrait des établissements fermés, c'est notre capacité in fine, lors d'un recalibrage en 2025, mettons, allez, avec de nouveau des groupes qui reviendraient en force, d'avoir la capacité, peut-être pas à 5 ans, mais à 5-10 ans, à pouvoir les accueillir. Parce que baissant les 10 000 chambres et 22 000 lits, descendant, puisque les prévisions ne sont pas très... très joyeuse. Hein. Donc après, il se posera très vite la question on ne pourra pas accueillir ces flux de pèlerins si, dans quelques années, nous étions en capacité d'avoir un système qui retrouve sa vitalité. Hein. Bien d'accord. Comment ferait-on si... C'est pour ça que vous avez raison quand il faut sauver le commerce. Je crois que l'État a quand même engagé 80 millions d'euros jusqu'à présent sur tout ce secteur du tourisme qui est en grande difficulté. C'est aussi pour ça, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que, par rapport aux travaux de mise aux normes et en sécurité, ceux qui ne l'ont pas fait jusqu'à présent, avec la double lame qui est le Covid, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent plus? Il y a quand même des familles qui sont touchées par le fait que les enfants ne veulent plus reprendre les exploitations. Donc il va y avoir quand même une baisse du parc hôtelier. Et ça, c'est très préoccupant pour la situation dans quelques années si on ne peut plus en plus. Accueillir, ça veut dire qu'on va perdre des saisonniers, on va perdre des habitants, on va perdre de l'impôt. Enfin, c'est le cercle vicieux ou le cercle vertueux. Hein.
Vous faisiez allusion tout à l'heure justement à des études. Est-ce qu'il y a des chiffres sur justement le nombre de fermetures estimées
de l'hôtel, de commerce ? Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des chiffres. Alors, je ne vais pas le dire ici parce que c'est pas le moment. Je pense que dans une situation où on souffre, il ne faut pas asséner les coûts, mais... Les chiffres sont là, oui, les chiffres sont là, et ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a une étude bancaire qui cible même les hôtels, le parc hôtelier qui va fermer. Et ça pose un deuxième problème aussi, c'est pour ça que moi je me projette dans la ville de demain, même si, je le répète, je n'y serai peut-être plus, et l'autre équipe ne sera peut-être plus, c'est pas le problème. Hein. Mais que sera le parc urbanistique du bas, dans 10 ans, si vous voyez un certain nombre d'hôtels, pour ne pas dire un certain nombre important? Donc, ça pose le problème de la requalification urbanistique de la ville. Comment on pense la ville? C'est pour ça qu'il faut avoir cette ambition d'une vision globale en intégrant tous ces paramètres avec plan A, plan B. Si demain, mon nombre d'hôtels diminue, il y en a de moins en moins, il faudra penser à avoir peut-être des zones de parking environnementaux, des choses nouvelles, peut-être de l'habitat en bas aussi. De l'habitat pour définitivement relier au bas de ville, peut-être au moyen de transport. Des moyens de locomotion avec des navettes électriques, il faut vite s'y mettre à tout ça. Donc il y a tout un aspect il faut faire les deux en fait. Il faut faire la politique pragmatique, celle d'aujourd'hui, qui nous impose un DOB contraint, et puis celle qui nous oblige à imaginer, pas moi, mais tous les spécialistes réunis, et la politique c'est ça aussi. Hein. Et les gens qui font de la politique, ils sont là pour s'entourer d'experts, il faut avoir les bons experts, et de se nourrir des avis différents pour pouvoir, quand ils sont en décision et qu'elles les concernent, prendre les bonnes décisions. La politique, c'est ça, c'est pas décortiquer la crevette. La politique, c'est à un moment donné fédérer les gens, les unir, convaincre, y croire, et surtout porter avec soi cette envie qui fait que oui, quand je vois les investisseurs qui croient à ce projet, même s'il est ambitieux sur quelques années, ils seront là. Ils seront là dans quelques années pour construire avec. Ça, c'est très important, parce que sinon, il nous reste quoi? Il nous reste quoi, sinon? Les yeux pour pleurer? Non, on va pas pleurer. On y va. Monsieur Perretto, il veut dire.
Oui, juste un petit pour revenir sur l'annualisation des pèlerinages.
C'est une piste, attention. Hein,
oui, c'est une piste, mais vous l'avez évoqué avec les sanctuaires, qu'en pensent les sanctuaires?
Oui, ah oui, ils sont favorables. Oui.
Ils sont favorables?
Ah oui, absolument.
Et ils vont trouver des pèlerinages pendant l'hiver.
C'est-à-dire que, déjà, vous regardez, on enlève le mois de janvier. On enlève le mois de janvier qui est un mois froid, vous l'avez. Le démarrage, le 11 février. Petit creux en suivant, mais il suffit de...
Alors, continuité du 11 février jusqu'à Toussaint.
Jusqu'à novembre.
Jusqu'à décembre.
Jusqu'au 8 décembre, puisque c'est la date importante. Ouais. Mais peut-être Noël, puisque on avait pour intention cette année, vu le Covid, mais on n'a pas pu le faire, de faire un grand Noël.
À Lourdes,
oui. Ah oui, oui. Parce que les gens en ont besoin aussi, les habitants, les citoyens, et pas que, les visiteurs aussi. Mais le recteur du sanctuaire, oui. Lui, il est convaincu que... Alors, en plus, c'est quand même... Le sanctuaire, c'est la pierre angulaire du système. Quand. C'est eux qui se sont absolument. Eux qui organisent les pèlerinages. Absolument. Donc au moins ils ont la main.
C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je pose la question.
Voilà. Alors peut-être que il faut se mettre en adéquation avec. Il y a tout un travail quand même. Ça c'est de la politique. Ça. Tout un travail pour convaincre, faire sentir le passage. Mais eux toujours, ils pensent lui. La base, c'est ce que je lui ai exprimé et qu'il a acté, c'est que je ne crois pas, moi personnellement, que les visiteurs reviendront en très très grand nombre d'un coup et qu'il faut l'éventualiser, ça. Si vous avez une capacité de futurs pèlerins à venir qui, au final, c'est la même, mettons, avec 3 millions, puisqu'on parle toujours de 6 millions, il faut arrêter, c'est pas 6 millions, c'est 3 millions. Et en réalité, c'est un peu plus bas, mais bon. Si vous avez ces personnes-là, elles sont là, à mon avis. Le potentiel, il est là. Il dépend de l'accessibilité liée à l'avion ou autre. Et il est là. On l'a vu avec le pèlerinage. On sent que... Je suis sûr que quand on va voir le feu vert, les gens auront besoin de venir dans cette ville. Parce qu'au-delà de la spiritualité, il y a tout le reste. Il y a les malades et les handicaps. Et puis le fait de se retrouver, de s'aider. Sans les aidants, on n'en parle jamais. Sans les aidants, il n'y aurait pas Lourdes. Il y a les malades, etc. Mais il y a les aidants, des milliers d'aidants. Donc, moi, je suis convaincu, ça, j'en suis sûr que quand on va avoir le feu vert, ils vont revenir, tous ces gens-là. Seulement, ils ne pourront pas revenir dans les conditions d'antan. C'est là que le recteur me dit, oui, je pense que vous avez raison, et j'en suis convaincu, moi aussi, que il faut peut-être, maintenant, là, au gré... En fait, c'est du factuel, ça. On a la situation qui est là, est-ce qu'il ne faut pas s'adapter à ce qui se passe pour pouvoir compenser les pertes de chiffre d'affaires, fait tout le télier, parce que aussi, là, le sanctuaire, ils ont eu un gros trou à l'allumage, quand même. Alors, il y a eu des compensations par leur appel aux dons,
c'est sûr,
que nous, on ne peut pas faire. Ça, voilà. Moi, je me disais, peut-être on va devoir le faire si ça continue, mais à quel titre, nous? Mais voilà, donc eux, oui, ils sont favorables. Les hôteliers, ils sont divisés.
Il y a un problème de charge.
Qui peut le faire?
Tenir un hôtel au prix de la pension actuellement, c'est intenable.
Après, il y a aussi la conquête de nouveaux publics. Là aussi, il va falloir démarcher. C'est pour ça que je leur proposais, moi, une formule pour pouvoir dépasser le stade de l'office de tourisme. L'office de tourisme n'est pas assez costaud aujourd'hui. Regardez, on a juste bouclé le budget de l'office de tourisme avec les reliquats de la taxe de 2019. Associé au peu qui est rentré. Voilà. Donc l'office de tourisme n'a pas capacité à avoir 3 personnes, à embaucher 3-4 personnes. C'est du niveau, là. Moi, je me suis renseigné. Ça coûte très cher, très très cher. On ne peut pas le faire. Par contre, travailler en partenariat avec une structure privée montée par eux-mêmes, sous la forme d'un GIE, par exemple, et être en synergie, proposer des produits nouveaux, ça, c'est possible. Et aller chercher des clientèles nouvelles, ça veut dire que c'est une autre vision. Ça se fait ailleurs. Hein. Je me suis renseigné, ça se fait ailleurs. C'est-à-dire que le monde professionnel s'est pris aussi en charge en créant sa propre structure. C'est un peu le groupement d'employeurs, si vous voulez.
Oui, mais il faut moderniser la promotion aussi.
Si
vous ne modernisez pas la promotion,
Justement, alors, par contre, Atout France, qui est un partenaire indéfectible et qui vraiment tient la route, c'est l'histoire du prochain workshop, c'est tous ces outils techniques. Ça, c'est C'est pas moi. Moi, je regarde. C'est plutôt Marie qui pourrait nous en parler. Si vous voulez compléter, Marie, vous pouvez compléter la. Un micro, peut-être, Marie. Voilà. Enfin, tout ce qui est. C'est pour ça que moi, ce que j'ai pu apporter dans cette histoire, c'est la cellule opérationnelle technique. Pourquoi cette cellule? Elle vient compléter. J'ai eu cette idée. Pourquoi? Parce que elle recouvre des professionnels du tourisme, des gens qui sont dans la technique du tourisme. Il y a les gens qui pensent, les hôteliers qui ont leur propre stratégie, et puis après, il y a ceux qui mettent en application, et il y a dedans un responsable du sanctuaire, hein, en termes de promotion touristique, marketing, etc., commercial marketing. Il y a un directeur général d'hôtel qui est un type exceptionnel, qui s'inscrit dans la neutralité, et ça c'est bien. Il y a les professionnels d'office de tourisme. Il y a Madame Santaillé qui a été embauchée par la préfecture, qui nous l'a dédié, mais c'est l'opération blanche, qui est là aussi pour piloter la feuille de relance. Cette dame a une vision, elle fait un travail colossal, associé avec un représentant aussi de l'agglo, de la commission de tourisme. Et ces gens-là, c'est une cellule opérationnelle qui aide le bureau stratégique à sortir du stade des idées. Et à essayer, et puis à être aussi des interlocuteurs privilégiés d'Atout France et de tous les opérateurs qui viennent dans les workshops. Hein. Il y a tout un travail colossal à faire, mais la base, c'est quand même l'état d'esprit et le projet philosophique. Hein. Il y a un vrai projet philosophique à revoir. Hein. Voilà, Madame Thiemery.
Donc, juste pour compléter, Monsieur le maire a parlé d'un workshop, par exemple, qui va se tenir, qui est dans la feuille de route hein, du plan de relance, qui va se tenir très bientôt. Donc, c'est un workshop avec plusieurs acteurs. Il y a Atout France avec nous, le CRTO, LO, pardon, et HPTE, bien sûr. Donc, c'est un workshop, ça va être du travail avec tous les tours opérateurs, donc qu'ils soient étrangers à européens, voire internationaux. Donc, pour réassurer sur la destination, revendre la destination, etc. Donc ça, c'est avec une priorité donnée sur le marché français à court terme, bien entendu, comme dans l'action 43 du plan de relance, et ensuite européen, etc. Et en parlant de la saison qui s'allongerait, c'est bien sûr aussi avec des nouveaux publics, voire des publics qui reviendront, que ce soit des touristes venus d'Asie, bien sûr, des Amériques, Nord et Sud, en particulier Sud, qui viennent en général pour l'hiver chez nous. Donc c'est un marché qu'on doit reconquérir et continuer à conquérir. Voilà. Donc et bien sûr, tout ceci, tous les acteurs économiques doivent faire partie, travailler sur l'offre et l'image de la destination et vendre cette offre touristique, en la promouvoir tous ensemble. L'offre touristique, mais aussi culturelle, sportive de toute la ville. Voilà, c'est le travail que nous sommes en train de mener avec les agents de l'Office de tourisme que je tiens ici à remercier pour la qualité de leur travail.
Ah oui. Merci.
Je peux poursuivre les questions? Merci, monsieur le maire. Toujours donc par rapport au plan d'action Lourdes Horizon 2030, concernant l'action 37 relative à l'étude urbaine, il est précisé donc qu'elle est censée compléter des études stratégiques existantes. Alors nous voulions savoir lesquelles et quelles suites avaient été déjà données et notamment est-ce qu'il y a eu des suites données au comité des sages qui avait été organisé dans le cadre de la précédente mandature?
Alors, le comité des sages, donc j'ai relu plusieurs fois, avait donné quelques indications, quelques recommandations à suivre. À aujourd'hui, de plan stratégique lié à la recommandation, sincèrement, je vous dis non, il n'a pas été démarré une action quelconque. Mais on va utiliser une autre formule qui est en cours d'élaboration, qui va permettre aussi de s'approcher de... Parce que quand vous voyez les projets prioritaires de qualification urbaine, schéma directeur urbain, etc. Ce schéma directeur, pour l'instant, on va être sur plutôt un schéma immobilier d'emblée, puisqu'on on est un peu court encore pour faire ça. On y va. On est dans l'obligation de le faire. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc, on a une autre attitude qui est un peu plus humble pour l'instant, au regard de la difficulté que nous rencontrons dans cette vie, mais il est obligatoire. Ce schéma, il est obligatoire. On ne peut pas y couper. Pas dans l'immédiat. Mais dans quelques mois, ça sera fait.
Une autre question avant de... Et je reviendrai sur d'autres sujets après. La dernière question concernant ce plan d'action, c'est l'action 38, où il est question de créer des services numérisés pour les commerces. Donc ça, c'est une piste qui est très intéressante. Et donc, nous aurions aimé en savoir plus sur ces services numérisés pour le commerce. Quels sont ces services qui sont envisagés, quels seront leurs intérêts, leurs finalités, et est-ce qu'il va y avoir une action en complémentarité avec les services déjà mis en œuvre par la Chambre de commerce et d'industrie ainsi que la région Occitanie?
Je vais peut-être donner la parole à monsieur le maître, peut-être qu'il veut intervenir sur ce sujet-là.
Oui, alors madame Assoir, pour les services numérisés pour les commerces, nous sommes en train depuis quelques mois de mettre en place une marketplace qui sera officiellement inaugurée lundi à 17h. Cette marketplace s'ouvrira donc lundi. Nous avons déjà une centaine de commerçants référencés sur cette plateforme, tout commerce confondu, hein, du bar au restaurant, au commerce de vêtements, à une petite brasserie, également les gens qui sont présents régulièrement sur les marchés, ainsi que ceux qui sont au hall. Donc voilà, le travail sur la numérisation du commerce est en marche depuis un petit moment. Voilà. On avait annoncé pour fin janvier cette mise en place. Il faut savoir que les commerçants rencontraient quelques difficultés, notamment par rapport à la mise en place des soldes et tout ça. Donc, comme on a voulu pouvoir leur accorder du temps afin de les former avec l'équipe qui s'occupe de ça, Laurent Jubier et Julie Cabaoui, que je tiens à remercier également ici pour le travail quotidien qu'ils font sur place en se rendant chez les commerçants pour les former à ce marketplace. Et vous verrez lundi à l'ouverture de cette marketplace qu'il y a un gros travail qui a été effectué, parce que aucune municipalité précédente n'avait mis en place le recensement du commerce sur Lourdes. Et c'est tout le travail qu'on mène depuis maintenant plusieurs mois, même depuis notre arrivée, depuis le mois de juillet, parce qu'on avait mis en place les cellules Covid. Je vous avais également demandé de venir nous aider du côté juridique pour les commerçants. Bon, malheureusement, votre emploi du temps ne pouvait pas vous permettre de venir. Mais nous avons mis en place ça depuis juillet et nous nous activons à mettre en place ce marketplace. Et puisque nous sommes écoutés et enregistrés, j'invite les commerçants à se numériser très vite. Et nous sommes là pour les accompagner au bureau des projets.
Merci.